affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. De fidélité, ou plus exactement de piété filiale, il sera justement question aujourd'hui. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Anne de la Crételle, qui vient de publier aux éditions de Fallois un ouvrage consacré à son père, l'écrivain et académicien Jacques de la Crételle, figure marquante et mythique de la vie littéraire depuis les années 20. J'ai dit un ouvrage consacré à son père, c'est inexact, imprécis. En effet, si ce livre foisonnant d'anecdotes, de confidences, de souvenirs et de réminiscences est consacré à celui qu'elle appelle fréquemment Zeus, il est beaucoup plus qu'une biographie. À travers le portrait de son père, c'est en réalité celui d'un demi-siècle de vie littéraire qui est brossé par petites touches, avec précision, délicatesse et un véritable sens de l'évocation. Nous avons donc la chance de recevoir Anne de la Crételle. Madame, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Après la lecture de l'ouvrage, je rends compte que c'est un travail énorme dans lequel vous avez rassemblé une documentation très importante, vos propres souvenirs aussi, puisque si vous en êtes la narratrice, vous avez vécu un certain nombre de ces événements comme petite fille, ensuite femme adulte. C'est aussi certainement un ouvrage qui demande une grande mobilisation émotionnelle. Comment décide-t-on de se lancer dans un tel travail ?
Bonjour, merci beaucoup de me poser ces questions. Moi-même, il y avait très longtemps que je me demandais comment évoquer ce père tout de même vraiment très prestigieux. Et le déclic, si on peut parler ainsi, ça a été la publication du livre d'un ami, de quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup, un académicien, Dominique Fernandez, qui a écrit « Ramon », livre sur son père, très lucide. Et il faut, à ce moment-là, arbitrer. Ce n'est pas un règlement de compte. On peut toujours avoir, en effet, des petites rancœurs ou des mauvais souvenirs. Et ce n'est pas une hagiographie. Et j'avais trouvé chez Dominique une grande équanimité. Et j'ai essayé de faire un peu la même chose. Et j'ai tout de suite, quand le livre est sorti, écrit à Dominique en lui disant « Voilà, au fond, vous êtes un peu le père de ce livre. » Et c'est ainsi que j'ai pu écrire tout un monde. Alors, vous avez raison. Je me suis aperçue que ce qui était intéressant, c'était de montrer tout cet aéropage de gens célèbres qui avaient environné cette génération, des plus âgés aux contemporains. Mon père était né la même année que Paul Morand, en 1888, mais en même temps que Giraudoux, mais il a été lancé en littérature par Marcel Proust, Gide l'a accompagné, Valéry était son parrain à l'Académie. Enfin, voyez-vous, il y a une galaxie de célébrités qui a présidé au parcours de mon père Jacques de la Crételle.
Alors le livre est d'ailleurs sous-titré « Jacques de la Crételle et ses amis ». Et vous démarrez d'ailleurs par cette amitié très forte qui le lie à Paul Morand. C'est-à-dire que très jeunes déjà, ils sont liés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de leur amitié ?
Oui, alors ils se sont rencontrés, c'était justement ça qui était un peu difficile, c'est qu'ils ne tenaient pas une chronologie très rigoureuse. Alors, ils se sont rencontrés, Paul, et je l'appelle Paul, enfant je l'appelais oncle Paul, mais après, maintenant, je l'appelle Paul. Mais ils se sont tout de suite reconnus comme écrivains, très sélectifs, je dois dire, assez snob, ça il faut bien le dire. Il y avait une part de snobisme aussi, mais fous de littérature l'un et l'autre, bien qu'ils aient été tous deux absolument opposés dans leur œuvre. Paul était la vitesse, l'instant, et mon père était la psychologie et les ressorts des soubresauts de l'âme. C'est un peu pompeux ce que j'ai dit, mais c'était ça. Mon père s'intéressait avant tout à la psychologie.
Oui, il était dans des œuvres d'introspection. Peut-être d'ailleurs faut-il évoquer ses romans, et d'abord son premier roman.
Oui.
Alors, ça correspond parfaitement à la description que vous venez d'en donner.
Oui, la vie inquiète de Jean Hermelin est, au fond, avant l'heure, la description d'un cas d'autisme. Aujourd'hui, on dirait un autiste. Et ça a été, à mon avis, très intéressant parce que souvent, j'ai remarqué, les personnages de romans sont un peu, si on peut dire cette métaphore, les mules des défauts de l'auteur. Et souvent, un auteur évacue sur un personnage ses problèmes. Et mon père, qui était très introverti, il avait été orphelin de père, et à mon avis, cela a beaucoup joué sur sa psychologie à l'âge de 10 ans, fait porter à Jean Hermelin toutes ses angoisses et ses interrogations de jeune homme un peu attardé, parce que il n'était plus de première jeunesse quand Jean Hermelin apparut. Et ça a été, au fond, le sésame qui lui a ouvert la porte de la littérature.
Alors précisément, c'est ce roman qui sera apprécié et soutenu par Marcel Proust.
Voilà. Alors, ce qui m'a passionné, je vous avoue, c'est que en relisant les lettres que Marcel Proust avait adressées à mon père, il y en avait environ presque une vingtaine, en tout cas une bonne quinzaine, si je peux dire, en parlant de Jean Hermelin, Proust lui dit, et met des guillemets dans la lettre, votre personnage exprime la difficulté d'être. Et il met ça entre guillemets. On le retrouve dans les lettres de la correspondance de cette remarquable anthologie. Non, c'est plus qu'une anthologie, c'est une œuvre totale, c'est Philippe Kolb, avec ses 21 volumes de correspondance de Marcel Proust. Et alors, on la retrouve, cette lettre, dans Philippe Kolb. Et que Proust signale et appuie cette difficulté d'être est une chose qui m'a beaucoup interrogée, parce que, au fond, c'est exactement, sans doute, ce que Proust a éprouvé lui-même. Et je me suis demandé. Et alors, il met aussi, entre guillemets, la difficulté pour rejoindre. Et ce terme de rejoindre montre à quel point Proust a sans doute eu un problème majeur de s'intégrer. Et ce qui explique peut-être cette fameuse gentillesse presque hypertrophiée qu'il a déployé tout au long de sa vie, et qui était justement cet effort pour rejoindre, dont il parle à mon père, effort pour rejoindre. Et donc, Proust a très bien compris tout de suite ce livre, le premier livre de mon père. Et il l'a aidé, il l'a signalé à Jacques Rivière. Et une fois que mon père a
pour
été...
Pour la NRF.
Ça, oui, alors là, c'était vraiment l'ouverture à la littérature.
Vous parliez de la difficulté de rejoindre, qui unissait probablement à la fois Marcel Proust et votre père. En l'occurrence, entre les deux, il n'y a eu aucune difficulté, c'est de l'ordre du coup de foudre, quasiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fulgurant.
Oui.
Aussitôt ils se voient, aussitôt ils se comprennent.
Oui, oui. Bien que j'ai trouvé, en analysant bien scrupuleusement tous les textes, les lettres, les journaux, j'ai trouvé que mon père avait été assez désinvolte avec Marcel Proust. Et au fond, on peut se féliciter de cette désinvolture, car dès la première rencontre, il lui demande les clés d'un amour de Swann. Ce qui était, je trouve, un peu brutal. Et Proust, pris au dépourvu, lui explique dans une grande lettre, il n'y a pas de clé, non, un personnage est un amalgame, enfin, etc. Les grandes théories. Tous les écrivains se défendent d'avoir des clés, mais en fait, il y a toujours un petit noyau. Mais là où je dis que c'est une chance, c'est que sur un exemplaire rare, sur papier Japon, je parle pour les bibliophiles, Proust a écrit les clés de la sonate à Vinteuil. Et c'est, d'après Jean-Yves Stadier, une des plus belles dédicaces que Proust ait jamais données et la plus exhaustive. Et là, on a les clés. Je la donne d'ailleurs en annexe à la fin du livre, parce qu'il y a peut-être un jeune public qui s'intéressera. Et là, toutes les clés de la sonate à Vinteuil sont données et on voit qu'elles sont multiples. On pense à Forêt, à Rinaldo. Enfin, il y a de multiples musiciens qui sont cités.
En fond, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas une clé par personnage,
non,
mais qu'il y a une multitude de
absolument
clés qui sont autant d'entrées.
Absolument. Absolument.
Et qui enrichissent la compréhension, d'ailleurs.
Véritablement. Alors, après, mon père a voulu, soi-disant, suivre cette voie, mais je dois dire que... Il s'est inspiré de certains amis, de certains personnages, pour ses personnages littéraires. Et aussi, il a mis beaucoup de lui-même dans certains de ses personnages. Beaucoup de lui-même. Il s'en explique et il dit que écrire, c'est un mélange de réalité et de souvenirs très personnels. Et puis de... oui, enfin, c'est ce souvenir avec cette mémoire intime.
Oui, et d'une personne qui est dans l'approfondissement, vous avez dit l'introspection, mais l'approfondissement, on sent à la lecture de votre ouvrage...
Oui.
Combien effectivement il y a une forme d'immobilité et d'empire intérieur chez votre père.
Exactement. Alors, il a cette expression qui est récurrente, de la patrie intérieure. Et ça, pour lui, c'est vital. C'est ce monde intérieur qui ne vous appartient qu'à vous-même. C'est ce qu'il appelle la patrie intérieure. Et alors, il cite Benjamin Constant, qui était un auteur qu'il appréciait très, très particulièrement. Et alors, une citation qui est « Personne ne pourra empêcher que soi est soi ». Et c'est un peu elliptique, mais c'était une des phrases qu'il préférait. « Personne ne pourra empêcher que soi est soi », c'est une phrase de Benjamin Constant.
Alors, dans cet exercice, parce qu'on pourrait croire, en développant ce trait de sa personnalité, que c'est quelqu'un de renfermé, mais pas du tout. Il est fougueux, par ailleurs. Il est fougueux, il va vers les autres. C'est quelqu'un qui est capable de...
Oui, alors, je l'ai appelé Zeus parce que mon père avait ce que Morand, dès qu'il l'a rencontré, lui a écrit et lui a dit « Vous avez l'autorité naturelle ». Alors ça... Ça veut rien dire, ça veut tout dire. C'est deux mots tout à fait qui sont assez banals. Et l'autorité naturelle, ben, mon père rentrait dans une pièce. Alors ça pouvait tenir à plusieurs paramètres. Il était d'une stature magnifique, très grand, un très beau visage. Proust disait que c'était l'un des hommes les plus beaux qu'il ait jamais rencontré. Et donc, quand il arrivait quelque part, il se passait quelque chose, ça, on n'y peut rien. Et mon livre débute par cette anecdote, c'est qu'en effet, je crois que c'est en 1926, un éditeur a proposé à des auteurs contemporains et connus déjà à l'époque...
Pas des moines, hein.
D'écrire sur les péchés capitaux. Et mon père a choisi la colère. Et ça n'est pas par hasard. Il rentrait dans des colères, comme je dis, chtoniennes, enfin, qui avaient l'air de remonter des profondeurs de la terre. Et il a toujours été pour moi Zeus, c'est-à-dire une sorte de dieu incontestable et terrifiant. Et ça, c'est vrai, j'ai toujours eu peur de mon père. Oui. Mon livre, au départ, devait d'ailleurs s'appeler « Zeus et compagnie ». Et puis l'éditeur a tiqué et on a choisi tout un monde.
Il ne fallait pas un titre à clé, il fallait aller droit au fait. Oui, vous citez cette phrase de votre père, « C'est la colère du prophète et du juste qui règle la marche du monde ».
Exactement.
C'est une vision dure.
Il pardonne tout à la colère, il en fait, il dit la marche du monde. La colère ponctue la marche, ou quelque chose comme ça, la colère ponctue la marche du monde. Il en fait un moteur, pas du tout un péché capital qui plomberait la société, non. La colère était pour lui celle du juste, celle de Moïse qui descend du mont, etc. Donc, c'est pour lui, il la justifie. Et alors, c'était assez amusant. Donc, je dois dire, dans le choix de ses péchés capitaux, ce qui m'a amusée, c'est de voir Marc Jacob, qui était vraiment ascétique, choisir la gourmandise. Ça m'a beaucoup amusée.
La luxure à Macorlan, bon, ok.
Oui.
L'orgueil à Giraudoux, l'envie à Salmon et la paresse à Kessel. Il y a quelques contraires, en fin.
Mais oui, parce que Kessel qui prend la paresse.
Oui.
Alors que
c'est parce qu'il vient spontanément à l'esprit.
Oui, mais non. Alors, comme je disais, Paul qui prend l'avarice, je ne l'ai jamais ressenti comme ayant ces problèmes de rétention horribles de l'avarice. Et ce monde étriqué d'un avare. Non.
Vous dites qu'il était avare de son temps.
Mais il était avare de son temps. Ah oui, ça, le temps pour Paul, c'était
pressé,
son trésor le plus précieux, je dois dire. Et il ne le gaspillait pas, il fallait toujours qu'il fasse quelque chose, qu'il lise, qu'il apprenne, qu'il soit opérationnel, si je peux dire.
Alors, j'ai évoqué le mot de contraire. Vous, à plusieurs reprises, vous expliquez à quel point il y avait plus des contraires dans la vie de votre père, donc notamment un qui saute aux yeux, spécialement évidemment dans les années folles, la littérature... D'un côté, l'approfondissement, comme on l'a dit, mais de l'autre, quand même, aussi, la fête, les mondanités, et ce déploiement de faste et d'amusement incroyable de ces années-là.
Oui. Alors, Je crois que, en effet, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai eu des éléments de réflexion tout à fait passionnants en lisant les correspondances des contemporains et des contemporains plus âgés. Et entre autres, une correspondance en 3 volumes qui est celle de Romain Rolland et Stefan Zweig, qui est parue chez Albin Michel en 3 volumes. Et qui a été primé par un prix que j'ai créé, qui s'appelle le prix Sévigné. Et dans cette correspondance, c'est lumineux. Ils échangent tous deux, ces grands esprits internationaux, on peut dire, échangent sur l'angoisse intense qu'ils ont, car dès la signature du traité et de la fin de la guerre de 14-18, ils comprennent qu'est en germe une prochaine guerre. Et si on lit cette correspondance en 3 volumes, on voit tout au long de leur correspondance, et ils sont déjà plus âgés, vous comprenez, ils ont la sagacité de comprendre qu'ils dansent sur des braises mal éteintes, les braises mal éteintes de cette guerre horrible. Et c'est ce que ne comprennent pas, mais qu'ils vont comprendre très vite, ces jeunes comme Morand, Giraudoux, mon père, Cocteau, c'était tout le groupe. Et ils sont pris d'une frénésie. Mais le mot n'est pas trop fort, d'une frénésie d'étourdissement. Et c'est l'ouverture du bœuf sur le toit, de toutes ces boîtes de nuit, de ces bals, de ces vacances assez laxistes dans le midi, qui est encore un midi de rêve, il n'y a pas de construction. Et c'est pour eux, l'étourdissement est leur plus ancien. Eux savent qu'on marche vers une nouvelle catastrophe. Eux n'en prendront conscience que 10-15 ans après. Et c'est très intéressant, j'ai retrouvé dans le journal de Green, Julien Green, qui dit en 31 ou en 33, je ne sais plus, mais dans ces eaux-là, déjeuner avec Jacques de La Cretelle, il pense à être mobilisé prochainement. Donc, 5 ans, 4 avant la vraie déclaration de guerre, mon père pensait déjà être mobilisé. Il avait compris. Mais en 20, 22, 25, 30, c'est la folie, les bals costumés, l'étourdissement complet.
Pour l'illustrer, si vous me le permettez, je vais lire une courte missive que votre père écrivait à Madeleine T. Guérit. Voici cette missive qui décrit donc cette vie de plaisir, cette quête frénétique de plaisir. « Imaginez-vous, écrit-il, que je vais à 3 bals costumés en 3 semaines. Le premier sera sûrement très beau. Il est sur la mer. Je veux dire que les costumes doivent être divinités, coquillages, poissons, sirènes, plantes, marines, etc. » Vous pensez bien que je ne m'occupe pas de mon costume, mais j'ai accepté de faire partie d'une entrée où les hommes vêtus en espèces de pêcheurs sauvages doivent traîner des femmes poissons dans des filets. On voit le relief de
Oui, oui, c'est complètement loufoque. Alors, une des grandes inspiratrices de ces fêtes, il faut le dire, et que j'ai connue, c'était Valentine Hugo, la première femme de Jean Hugo. Valentine a présidé, elle avait une imagination exquise, elle avait été une des maîtresses de Breton, elle avait de l'invention, elle aimait les choses fantasmagoriques. Et même ce que je décris dans le livre, quand on arrivait chez elle, on avait l'impression de rentrer dans un douanier Rousseau. Il y avait des espèces de plantes vertes partout, des choses étranges, des coquillages, des choses. Et elle a inventé des costumes. Elle a été vraiment une égérie de cette époque, la chère Valentine. Et alors, malheureusement, cette comète qui a été Radiguet dans leur petit groupe, qui est mort en 23, en 23, Radiguet est mort, et Valentine et Jean Hugo l'hébergeaient. Et ça m'a toujours beaucoup frappée, parce qu'il y a eu une commémoration très émouvante, je dois dire, très bien faite, qui a été la commémoration à la Fondation Saint-Gé-Polignac de la création du Grand Prix du roman. Le Grand Prix du roman a été créé, je crois, encore pendant la guerre, en 1917, et après, il a tout de suite acquis une notoriété extraordinaire et un immense prestige. Eh bien, quand on a commémoré le Grand Prix du roman, il y a eu un colloque. Et dans ce colloque, on se demandait si le Grand Prix du roman n'était pas un Grand Prix un peu trop sélectif et sévère et qui était trop, comment dirais-je, de l'académie, c'était un peu trop pompeux et acquis. Pas du tout. Parce que, imaginez-vous, que la planète Proust, Marcel Proust, une planète, et la comète Radiguet, une comète, il a eu quelques poèmes, deux romans, morts, avant d'avoir l'âge officiel de 21 ans. À l'enterrement de Radiguet, si on lit les mémoires de l'abbé Migné, on a drapé en blanc, c'était le deuil des enfants. Eh bien, ces deux célébrités de la littérature française, tous deux rêvaient de l'Académie française. Marcel Proust, après le prix Goncourt en 19, a rêvé d'être élu à l'Académie française. Et Bronia Perlmutter, qui après a épousé René Clair, le grand cinéaste qui est devenu académicien, raconte dans ses mémoires, qu'elle a confiées à Pierre Barillet, elle raconte que tout jeune, à 19 ans, Radiguet rêvait de l'Académie française. Donc, ce Grand Prix du roman, non, attire aussi tous les écrivains, et ça n'est pas trop pompeux et trop, on peut dire, voyez-vous, c'est un Grand Prix qui est trop inscrit, trop... Non, c'est... Tout le monde en rêve, et des écrivains comme Proust et Radiguet ont rêvé de l'Académie française. Et je trouve ça magnifique et très gratifiant pour l'Académie française.
Mais écoutez, vous faites raison de le dire, c'est l'endroit où le dire. Et je poursuis en précisant que dans une part substantielle de l'ouvrage est consacrée également à la place éminente qu'a occupée Jacques de La Crételle à l'Académie française. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, car il n'a pas seulement été académicien, il était un membre actif, un pivot de l'Académie.
C'est vrai qu'il s'est passionné pour précisément le Grand Prix du roman qu'il a obtenu en 1930 pour un livre terrible à lire. C'est l'histoire du harcèlement d'un écrivain sur sa jeune femme qui en meurt. C'est un livre d'une cruauté totale qui s'appelle « L'amour nuptial », qui est un titre un peu désuet, mais tout de même, c'est un roman tout à fait, quelque part, actuel et terrible. Et mon père s'est passionné pour le Grand Prix du roman, et dans l'ouvrage qui célèbre le centenaire du Grand Prix du roman, de la création du Grand Prix, il y a un très bel ouvrage qui a été publié. On reconnaît qu'il a été presque, si vous voulez, le président du jury du Grand Prix du roman, parce qu'il se passionnait pour ces romans qui se présentaient à l'Académie. Et en effet, il a siégé pratiquement un demi-siècle, parce qu'il est rentré en 36, il est mort en 85. Donc, il a siégé pratiquement 50 ans, et ça a été vraiment une implication totale, une passion et des amitiés profondes. Et ça, je signale vraiment ce trait, c'est que j'ai vécu à travers mon père les amitiés profondes qu'il a nouées avec ses confrères, qui le lui rendaient bien.
C'était un homme d'amitié, non ? Tel qu'on le perçoit à travers vos souvenirs et la documentation rassemblée, on voit surgir quelqu'un de dur, d'exigeant, avec lui-même, avec les autres, avec vous aussi. Mais quelqu'un qui a ce don d'offrir son amitié et de recueillir celle des autres.
Oui. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était une amitié très élitiste. Je dois dire que c'est vrai, mon père était d'une exigence terrible pour nous, pour tout le monde. Mais quand il estimait une personne pour sa culture, pour ses qualités, alors là, c'était une adhésion totale. Une adhésion totale et je le remercie d'avoir été exigeant. C'est bien. Il faut que ce soit comme ça. Aucun laxisme. Et moi, j'en suis enchantée. Je suis triste de voir maintenant, quelquefois, un grand laxisme général, aussi bien moral que, je dirais, vestimentaire ou autre, présider à notre vie sociale. Non, il n'y a pas de raison. J'ai été aussi élevée par une grand-mère qui avait ce qu'on appelait des usages. Il y avait des usages. Alors, on ne pleurait pas devant les autres, on se comportait toujours avec une grande affabilité. Si on n'était pas d'accord, on l'exprimait par des périphrases. Et au fond, je suis enchantée d'avoir bénéficié de cette exigence et de cette affabilité extrême, bien que très rigide, de ma grand-mère.
Pour revenir à votre père, il faut préciser que même s'il y avait moi je ne trouve pas d'autre mot que l'exigence, une très forte exigence, une grande volonté de rectitude, ça n'empêche absolument pas, contrairement à ce qu'on croit trop souvent aujourd'hui, la liberté d'esprit, de comportement. Ça reste une personnalité très littéraire et très libre. J'en veux pour preuve, parmi d'autres anecdotes, parce que je la trouve très amusante, lorsqu'on lui demande de préfacer un ouvrage qui rassemble un aréopage de psychanalystes et de psychiatres, peut-être aussi, et très inspiré par Freud, et où votre père explique à quel point, lui, il considère que la littérature est supérieure à la psychanalyse. Ça n'empêche pas de franchir des frontières, de dire ce que l'on a à dire.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Là, ça a été un moment passionnant qui a perduré extrêmement longtemps. Je pense que la querelle entre psychiatre et écrivain, enfin psychiatre et la psychologie et les écrivains, cette querelle, il y a vraiment, véritablement une querelle, c'est un peu éteinte et apaisée, mais en 26, c'est la date de la traduction de Freud en français, et alors, j'adorais cette phrase de Gide, d'André Gide, qui dit « Nous l'avions bien déjà trouvé, cette Amérique-là », en parlant de la psychanalyse. Alors, évidemment, ça a été une bombe pour les écrivains qui s'arrogeaient l'analyse du cœur humain et de voir que ça pouvait être une science, ça leur a paru tout à fait incongru et déplacé. Alors il y a eu une grande querelle et j'ai été très étonnée que le professeur Berge ose demander une préface à son livre à mon père, parce que vraiment, mon père ne soutient pas du tout l'ouvrage. Mais c'était ces relations très ouvertes, en effet, comme vous le dites, qui régissaient les rapports à cette époque-là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus manichéen. Je dirais, si je peux, vous me permettez de continuer, je dirais que c'est manichéen aussi sur les mœurs personnelles, car je n'ai pas éludé le fait que mon père avait des relations masculines et féminines. Alors maintenant, ça paraît presque impossible, tant, je reprends ce mot parce que je n'en trouve pas d'autre, on est dans un processus manichéen. On doit être blanc ou noir. Si vous imaginiez à quel point les relations étaient plus fluides, pour moi c'est le mot de fluidité qui s'impose, étaient plus fluides à l'époque, alors de 1920, 25, 30, 35, 40, la fluidité a duré, à mon avis, je l'ai vécu jusqu'à 55-60. Et puis, les choses sont devenues, se sont durcies, et maintenant on a atteint des sommets, vous comprenez, des sommets de rigueur, il faut être marié, ça aurait fait mais rire, mais ils n'auraient pas compris. Alors, on peut taxer ça peut-être de débauche, de libertinage. Moi, je n'en sais rien. Mais si vous saviez, comme les gens allaient avec l'un, avec l'autre, plusieurs maîtresses, peut-être plusieurs amants, on passait, on se recevait, et à quel point ils avaient d'agrément à être ensemble ou pas ensemble. Et donc, mon père, la même année, avait sa liaison avec Marie-Laurencin, et puis arrivé le festival de Bayreuth, il partait avec une de ses longues liaisons, qui était Jacques Février, le musicien, et puis il revenait, il retrouvait une autre maîtresse. Et c'était tellement dans l'aisance, et non pas dans ce côté rigide de nos jours, que je trouve, je dois dire, assez redoutable. Alors, on va peut-être me taxer vraiment, en effet, de libertinage, mais c'était très agréable. Et tout le monde était content de se voir, et je ne sais pas. Alors, peut-être qu'on souffrait, je n'exclus pas la souffrance, parce que Marie-Laurencin, dans une de ses lettres, je possède toutes les lettres inédites de Marie-Laurencin.
Elles sont charmantes, ces lettres. Elles sont charmantes.
Oui.
Elles sont incroyables dans le style, il faudra qu'on en cite quelques-unes d'ailleurs, mais je vous laisse poursuivre.
C'était une femme délicieuse. Eh bien, elle dit à un moment donné, et nous deux, où en sommes-nous ? Bien sûr, mais dans le même temps, elle était la maîtresse de Berthelot. Vous comprenez, c'était cette vie qui, au fond, pourrait dire s'apparenter un peu au XVIIIe siècle, à ce charme qu'il y a eu au XVIIIe siècle. Mais ça a duré 15 ans, je le répète, et il dansait sur les braises.
Là aussi.
Oui.
Au 18e aussi, je veux dire.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison, oui. Oui.
Alors, je vais quand même lire une ou deux lettres de Marie-Laurencin, parce qu'elles ont un style complètement incroyable. Ah là, Jacques, tu n'écris pas, je ne te vois pas. Marie se fâche, ce qui fait fâcherie. Par nervosité, j'ai pas une petite tête de femme qui s'appelle la fureur. Des yeux froids magnifiques qui mordent et tueront, j'espère. Donc oui, on sent quand même une sorte de feu, pas de rancœur, mais de pique.
Non, mais elle dit les choses, elle est malheureuse, elle est jalouse, et voilà, elle dit les choses, mais avec quel talent, quel charme, quelle gentillesse. Moi, je l'ai bien connue, puisqu'elle a fait mon portrait, et c'était une femme rêveuse, exquise. Mais vous savez, elle avait tout de même été la maîtresse d'Apollinaire, et elle explique dans d'autres lettres, pas à mon père, mais elle explique qu'elle avait, évidemment, elle avait souffert, finalement, elle a rompu. Et
oui, vous dites que Apollinaire est à la fois jaloux et volage. Mm. Il n'avait pas fait de choix.
Et alors, elle dit cette phrase que je trouve presque un oxymore, mais merveilleuse, elle dit « Ah, comme j'ai pu chialer en douce ». Et alors, c'est un oxymore, parce que chialer suppose des sanglots et vraiment des pleurs violents et en douce. Chialer en douce. Et c'est ça les usages. C'est ça que m'apprenait ma grand-mère. on ne peut chialer qu'en douce, c'est-à-dire on n'impose pas son chagrin aux autres. Ça, c'est la règle. Et Marie est exactement comme ça. Elle n'a jamais imposé ses soucis aux autres. C'était adorable.
Alors vous parliez de ce monde fluide, hein, et de la façon dont les êtres pouvaient se lier et se délier. En revanche, il y avait une chose avec laquelle, visiblement, on ne plaisantait pas, c'est l'institution du mariage. J'aimerais peut-être d'ailleurs cette réflexion, peut-être que je me trompe, vous me direz, mais c'est que l'institution tenant et étant gardée férocement, on se souciait peut-être moins de ce qu'on pouvait faire à côté de l'institution. Mais peut-être faut-il évoquer la rencontre entre vos parents, qui est un romanesque absolument incroyable.
Insensé.
Mais aussi des fortes résistances, qu'on dirait bourgeoises aujourd'hui, pour faire capoter cet amour fulgurant. Alors, racontez-nous d'abord la rencontre.
Mais ça, c'est une chose stupéfiante. Et ça prouve à quel point mon père était bisexuel. Parce que partir pour la Grèce, en voyage, monter dans un compartiment, s'asseoir, voir une jeune fille en face de lui, la regarder pendant 8 heures et lui glisser, je l'ai encore, la carte de visite que je possède, où il lui dit « J'espère ne pas vous avoir dérangé en vous regardant toute la journée, parce que le trajet durait 8 heures de Paris à Marseille. » Et je veux vous revoir. Mais si cette requête vous dérange, oubliez-la. Et ma mère a écrit, ils se sont revus. C'était un romanesque invraisemblable. Mais si, contrairement à ce que aujourd'hui on suppose, mettons, on dirait Jacques de La Cretelle est homosexuel, donc il n'aurait pas le droit de draguer une jeune fille dans un train. Or, c'est exactement ce qu'il a fait à 40 ans. C'est insensé. Pourquoi ? De quoi ? Je ne sais pas. C'est une histoire absolument rocambolesque. Et ils se sont mariés. Mais là où les choses ont été magnifiques, c'est qu'ils ont été fusionnels toute leur vie. Je ne dis pas que mon père n'ait pas eu des extras. 50 ans, c'est énorme. Mais ils se sont adoré pendant 50 ans. Et croiriez-vous que ce que je dis dans mon livre, jamais je ne les ai entendus s'affronter, se disputer, mais un quart de seconde, jamais. Il faut dire que ma mère accédait, mais avec une sagacité, une intelligence extraordinaire de tous les désidératas de mon père. La maison tournait autour de mon père. Mais, je n'en sais rien, j'ai l'impression que tous les académiciens font tourner leur maison autour d'eux. Ils sont les pivots. Parce que...
Nous ne sommes pas une radio d'investigation, donc nous ne ferons pas
je ne sais pas, mais je vois Madeleine Druon était absolument... Mais Simone André-Mauroy était à la dévotion d'André. Frédéric Faudoyer était à la dévotion de Jean-Louis Vaudoyer, enfin, vraiment, il faut se donner à eux. Ce sont des personnages, et ils portent une œuvre, et tout le monde comprenait que c'était ça. Les enfants et l'épouse, on met tout en œuvre, c'est le cas de le dire, pour que l'œuvre puisse éclore. Et ma mère a été, à cet égard, vraiment exemplaire, mais dans la joie la plus totale. Ils étaient heureux, ils riaient, ils s'amusaient. Ça a été un enchantement, et c'est ce que j'appelle le cadeau empoisonné, parce que quand on a vécu ça, on n'a qu'une idée, c'est de le reconstruire et de le revivre et de le recréer.
En revanche, c'est une question plus personnelle, mais comme vous l'évoquez dans le livre, je me permets de l'évoquer à mon tour. Ça ne doit pas être très facile non plus pour des enfants, quand même, ce type de personnalité, non ?
J'ai essayé, comme j'ai pu, de reconstruire un moment de félicité aussi fusionnelle dans ma vie. C'est vrai. Mais ça, je le dois à cet amour extraordinaire que mes parents se sont portés et à à l'aide que ma mère a apportée à mon père dans son œuvre après. Mais c'était, les deux étaient d'une intelligence remarquable parce que à peine mon père a-t-il été marié qu'il a impliqué cette jeune fille de 20 ans qui n'avait aucune idée de ce que c'était que la littérature. Et enfin, elle le dit, je cite quelques lettres, enfin. Et tout d'un coup, il la plonge dans la littérature. Qu'est-ce qu'il lui fait faire? Il lui fait traduire Émilie Brontë, Léo de Hurlevent. Et tous deux font une œuvre commune à peine venaient-ils de se marier. Quelle leçon! Quelle leçon! Ça veut dire qu'il ne faut pas tabler sur l'attraction, l'attrait qu'on peut avoir l'un pour l'autre et l'amour, mais il faut en plus dégager ensemble un projet. Et ils ont toujours eu des projets. Et moi, j'en suis convaincue à 85 ans, à l'âge que j'ai, qu'une union ne peut réussir que s'il y a un projet commun, quel qu'il soit. Et surtout, pas considérer comme un projet les enfants. Les enfants sont faits pour s'en aller. Mais avoir un projet commun avec la personne qu'on aime. Voilà mon message.
Écoutez, il a reçu 5 sur 5 et il vaut certainement bien des conseils de conseillers conjugaux. Décidément, la supériorité de la littérature sur les psychologies de tous ordres se confirme. Il est impossible de faire le tour de l'ouvrage et donc j'invite bien évidemment nos auditeurs à s'y référer. Mais avant, sans pour autant terminer sur cette note un petit peu sombre, il y a un mot qui revient souvent dans le livre, s'agissant de votre père, c'est le sens de la fatalité, du fatum, du destin.
Ça c'est vrai.
Comment l'expliquer?
Alors son amour, sûrement son amour de la Grèce. La Grèce a été un berceau pour mon père. Alors, il l'a abordé, au fond, d'une manière un peu parallèle, si on peut dire, puisque dans son enfance, il a suivi mon grand-père qui était dans la carrière consulaire. Il s'est retrouvé à Alexandrie, mais qui est encore... Et il y avait la colonie grecque, là. Et nous avions gardé des grands amis dans la colonie grecque d'Alexandrie. Après, bon, il a été à Florence, mais il a été... toujours absolument fasciné, ce mot est banal, mais pris profondément par les auteurs grecs anciens. Et la découverte pour lui, ça a été la Grèce. Il en a tiré un très bel ouvrage qui s'appelle « Le demi-dieu au voyage de Grèce ». Et là, lui qui est toujours très réservé, qui met toujours un personnage entre lui et son intimité, sa patrie intérieure, eh bien sa patrie intérieure, c'était la Grèce. Et les vrais accents lyriques que j'ai retrouvés dans l'œuvre de mon père, c'est dans le demi-dieu au voyage de Grèce. Et là, il a trouvé la rigueur, la beauté, la manière, par exemple, dont il parle des colonnes des temples grecs est tout à fait émouvante. Et le fatum vient de ces auteurs grecs, Euripide, Sophocle, et la manière dont il parle de Mycène, ça l'a littéralement marqué au plus profond de lui-même. Et c'est de là que lui vient, je dirais presque, ce respect. Il s'incline devant le fatum. Et je le comprends un peu. Tardivement, j'ai eu enfin la joie d'aller à Mycène. Et quand je suis arrivée, j'ai compris simplement par l'endroit lui-même, les lieux acculés contre une montagne, on comprenait que tout était irrémédiable. Ce palais avait une situation irrémédiable et le drame était là avant même que des personnages l'habitent. Le site est dramatique. Et dans mon cas privé, personnel, ce jour-là, la colline était couverte de coquelicots. C'était le printemps. Le sang dégoulinait la colline. Le fatum était là. Et c'est ça qu'il a trouvé dans la Grèce. C'est ce mélange de la culture totalement adhérente au paysage et au drame des paysages. Et il arrive à Olympie, et son arrivée la nuit à Olympie, eh bien, j'ai voulu faire la même chose et j'ai totalement compris ce qu'il avait éprouvé à ce moment-là. Le fatum est partout en Grèce.
Bien, écoutez, ce voyage en Grèce démontre que nous sommes décidément tous des héritiers. Vous avez fait une belle œuvre d'héritière et de transmission. J'espère qu'elle sera bien reçue, donc je vais en redonner les références à la fin de l'émission. Mais avant, dans le cadre de cette volonté de transmission, je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur le prix Sévigné qui vous occupe, car vous avez parlé de l'importance des projets. Eh bien, celui-ci en est un beau, qui est déjà ancien et qui perdure. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Écoutez, là, je ne trahis pas mon père. Il était fou de Madame de Sévigné. Et c'est en allant faire un reportage sur ses demeures que j'ai découvert qu'on avait brûlé certaines lettres de Madame de Sévigné, heureusement conservées dans le manuscrit Capmas que nous avons toujours. Mais, voyez-vous, c'est en synergie totale avec le livre que je viens d'écrire, car j'ai pu l'écrire grâce aux lettres qui restent. Et comme nous en parlions tout à l'heure à bâton rompu, la lettre est un écrit unique, c'est un écrit irretouchable, parce que les mémoires, le journal, même un roman, ça se tripote quelque part. La lettre part, elle est partie, c'est une bombe à retardement, mais c'est un écrit irremplaçable pour resituer une époque, une conversation, un personnage. Et j'ai créé ce prix pour alerter tous les publics sur l'importance de ne pas jeter les lettres, de les garder. Et vous avouerai-je que maintenant, puisqu'on a les SMS, j'imprime mes SMS, pas seulement OK, mais les SMS un peu longs, et j'ai eu des correspondances de textos et de SMS qui seront la preuve des échanges que j'ai eus avec les uns et les autres. Il faut garder l'échange et ne pas l'envoyer dans des zones stratosphériques telles que cloud. Ça, c'est aussi mon dernier message.
Eh bien, écoutez, je suis certain qu'il sera reçu, y compris par les plus jeunes qui comprennent à quel point il peut être agréable de se replonger dans des œuvres plus matérielles, comme le livre que je tiens actuellement entre les mains, qui a une belle odeur de papier, une très belle iconographie aussi, et dont les références sont tout un monde, c'est exactement cela. Jacques de la Cretelle et ses amis, aux éditions de Fallois, par Anne de la Cretelle, bien sûr. Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup.
Thank you.